Bien, vous connaissez l'introduction du psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Et si je lis au psaume 7, verset 10, « Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste ». Le Dieu qui nous sonde, le Dieu qui est à l'intérieur de nous, et le Dieu qui fait de nous une habitation. Nous sommes son temple pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Il a fait de nous, de nos corps, le temple de sa présence sainte. Et l'apôtre dit aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, « En lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, verset 21, « tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Être une habitation de Dieu, Dieu en nous. D'une certaine manière, je pourrais dire l'expression, enfin, ce qui m'était venu à l'esprit, c'est que Dieu en nous, bah, c'est une bombe. C'est une bombe. Hein, comment est-ce que nous pouvons contenir Dieu ? Le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, le Dieu infini, le Dieu très saint. Mais c'est la parole qui nous l'affirme, parce que nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ. Eh bien, Dieu est venu faire sa résidence en nous. Alors, non pas en plénitude, nous avons seulement les arts de l'esprit. Ainsi, nous lisons au début du chapitre 1 d'Éphésiens, donc versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Simplement un gage de l'héritage. Et dans l'Épître aux Corinthiens, il y a deux fois l'expression « les arts de l'esprit » dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 21 et 22. Eh bien, nous lisons que « En celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Chapitre 5 aussi, versets 4 et 5. « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. » Donc, les arts, le gage, les prémices. Voilà, nous avons le Saint-Esprit en nous, en sachant que celui qui l'a dans sa plénitude, eh bien, c'est Christ, hein, dont il est dit au chapitre 2, verset 9 de l'Épître aux Colossiens. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ, rempli de toute la divinité, corporellement, il contient Dieu dans sa totalité, Christ. Et de ce fait-là, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc c'est en Christ que nous pouvons participer à la plénitude de Dieu. Et nous devons rechercher cette plénitude de Dieu, cette communion avec Christ qui nous prédispose à la gloire divine, à la gloire céleste. Paul dit aussi dans cet épître aux Colossiens, donc il parle de l'espérance, chapitre 1, donc verset 27, le mystère de Dieu. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà ce qui est donc déjà dans nos cœurs et ce qui nous est promis, de participer à la gloire de Dieu parce que Christ habite en nous par la foi, par le don qui nous a été fait lors de notre conversion à Dieu, lors de notre repentance, de notre baptême dans la foi en Jésus. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et à partir de ce moment-là, quand Dieu vient vivre en nous, eh bien nous pouvons vraiment être ou devenir ce que l'on est. Parce que que sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Hein ? La question du sens de la vie est là toujours, qui est posée à l'être humain. Et comment est-ce que la réponse lui est donnée ? Eh bien, par cette connaissance personnelle de Dieu. On est quelque chose, on est quelqu'un. On devient en quelque sorte quelqu'un de véritable, quelqu'un d'humain, quelqu'un qui a la personnalité lorsque l'on connaît Dieu. Parce que seul Dieu peut dire « je suis », seul Dieu est. Hein, lorsqu'il se présente à Moïse, tu leur diras « celui qui s'appelle « je suis » m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui est. » C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui existe, c'est Dieu qui a un sens, une existence en lui-même. Sinon, dans notre nature charnelle, nous ne serions que des êtres vivants, mais nous serions des animaux. Hein, si Dieu ne faisait pas résider en nous son esprit pour nous être, avoir, posséder l'être véritable. Hein, il nous faut connaître Dieu, parce que en fait nous sommes son ouvrage, nous avons été formés par lui pour le contenir. Sans Dieu, hein, nous sommes un vase vide, une forme de vanité. Bon, c'est le philosophe, hein, bien sûr, Pascal, qui a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Mais si Dieu n'est pas là, ben, ça reste le vide. Ça reste totalement le vide, nous sommes une vanité, et c'est toute la recherche des hommes, et en particulier des philosophes, d'essayer de s'approcher et de comprendre autre chose que la nature charnelle, que la nature animale. Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal ? Qu'est-ce qui le fait être ? Je voyais un documentaire au sujet du philosophe Nietzsche. Hein. Ben c'est un homme qui a vraiment beaucoup, beaucoup réfléchi sur la manière d'être, hein, et qui a voulu, en quelque sorte, trouver l'être. Mais il a voulu le trouver par lui-même, sans Dieu, en dehors de Dieu. Eh bien, je pense que c'est la raison pour laquelle, quand on donc lit son histoire, à partir d'un moment, il s'est retrouvé vraiment dans une impasse. Il a dû réaliser que l'homme était vraiment trop petit pour s'approcher de cette vérité ultime. Eh bien, il est devenu fou. Tout simplement, il a terminé sa vie, toutes ces dernières années, en étant prostré. Il y a un moment donné, je pense que ça a dû être trop grand pour lui. Il a voulu trouver ce qu'est l'être humain, mais en dehors de Dieu. Et ce n'est pas possible. On ne peut pas être en dehors de celui qui nous a créés et qui nous donne l'être véritable. C'est par la connaissance de Dieu, la relation avec Dieu, que nous sommes vraiment humains, distincts du monde créé, du monde animal, et rejoignant le Dieu de l'éternité. Et nous devenons alors à ce moment-là un être moral, qui pense et qui agit autrement que par tout déterminisme, hein, quelqu'un qui peut avoir des plans, des dessins, une volonté, qui peut faire des choix véritablement et les assumer, parce que c'est la nature de Dieu qui nous l'accorde. Alors certains disent que nos choix ne sont pas libres. Nous serions comme conditionnés, prédéterminés, influencés, orientés malgré nous. Et je peux dire qu'effectivement, oui, nous le sommes, tant que nous sommes dans la chair naturelle, dans la chair du péché. À ce moment-là, dans cet ordre des choses, eh bien, nous sommes le produit, on peut dire, de deux réalités qui nous constituent, c'est-à-dire, d'une part, des pulsions, des instincts, hein, une sorte de force vitale qui travaille en nous, qui nous fait grandir, mais aussi, à part cela, une éducation, un environnement social qui nous forme et qui nous oriente. C'est évident qu'il y a ces deux réalités dans nos vies naturelles. Tout homme, donc, grandit, se développe en fonction d'un potentiel qui est en lui de développement naturel, hein, une force vitale et aussi un ordre social qui est établi autour de lui et qui l'éduque et le façonne. Donc on peut dire que dans cet ordre des choses-là, il n'est pas spécialement libre. Hein. La force vitale, bien sûr qu'elle est importante, puisque c'est elle qui nous donne en quelque sorte l'émerveillement, qui nous pousse à chercher, à entreprendre, à découvrir. Mais cette force-là, finalement, elle est désordonnée, elle est aveugle. Et donc elle aboutit finalement à rien. Et puis il y a le cadre social qui est très important lui aussi, il nous structure, il nous charpente, il nous donne une ossature, un squelette, et on se construit vraiment par rapport à cet ordre social. Hein. Et donc je dirais que sans cet ordre structurant, tous nos rêves feraient pchit en fait. Hein. Mais avec ce cadre, nos désirs se transforment, hein, et donnent à aspirer à autre chose, de plus grand, de plus fort, quelque chose de plus parfait, de plus abouti. L'homme essaie de dépasser justement ce cadre de sa vie sociale pour trouver quelque chose d'encore meilleur. Et on peut dire que donc l'éducation, la pression sociale, en quelque sorte, nous rapproche de Dieu, hein, et elle a comme composante habituelle, comme moyen d'action, la religion, hein, mais pas seulement la religion, elle a l'art et la culture, même la discipline sportive, et les loisirs même, etc. Avec tout cela, la société se construit des références, des moyens d'influence qui déterminent ces sujets. Mais, d'une certaine manière, quand on a dit ça, on constate que cette éducation, cette religion, cet art, cette culture finit par tout simplement enfermer l'être humain. Et elle ne l'ouvre pas, en définitive, elle ne l'ouvre pas à Dieu. Elle le garde, on peut dire, dans une dimension terrestre. Et l'être humain se retrouve finalement insatisfait. La religion se suffit souvent à elle-même et ne fait pas connaître Dieu. Alors, beaucoup cherchent quand même à exister, à trouver une raison d'être dans ce monde, et pour cela, ils empruntent des chemins parallèles, ils cherchent ailleurs que dans la religion, et que vont-ils trouver? Eh bien, en fait, on constate que c'est en particulier, donc, dans ce temps actuel, il y a deux grandes, on peut dire, tendance pour se réaliser, en quelque sorte, pour que l'être humain se réalise, cherche à se réaliser. Il y a deux grandes tendances. Il y a tout simplement l'exploitation des techniques les plus avancées, hein, en particulier les techniques audiovisuelles, etc. Réellement, ce n'est pas anecdotique. Réellement, il y a toute une génération qui se construit, qui se forme avec, au départ, ce qu'on a appelé simplement les jeux vidéo. Hein. Mais ce ne sont pas que des jeux. C'est devenu réellement, pour plusieurs, une façon d'exister dans un monde, voilà, où l'on crée un univers onirique, où il y a du rêve, du fantastique, une existence parallèle dans laquelle on pénètre, etc. Et vraiment, je crois que si ces jeux sont tellement addictifs et si des personnes s'y livrent à ce point, hein, c'est parce que ça correspond à un vrai besoin d'exister et qu'ils trouvent dans cet univers qui est créé artificiellement par toute cette logistique informatique, etc., hein, ils essaient de trouver, on peut dire, voilà, une dimension supérieure pour leur être véritablement. Et d'autres, eh bien, eux, ils cherchent des doctrines. Il y a tout le domaine, de la technicité, et puis il y a tout le domaine de la doctrine. Et beaucoup de doctrines, les doctrines du développement personnel, les doctrines du moi, de l'épanouissement, l'illumination intérieure, etc. Les personnes exposent leur être, les soumettent en quelque sorte à quelque chose de plus grand qu'eux. Ils vont même jusqu'à chercher, on peut dire, physiquement les rayonnements cosmiques. Hein, il y a des façons d'être, on peut dire, en méditation, en essayant de recevoir quelque chose qui vient de l'espace, là. Ou alors des gens qui, avec des pierres, veulent ressentir voilà, le pouvoir de ces pierres qui leur transmettent des énergies, etc. Enfin, vraiment tout un monde comme ça. Hein. Et voilà, la science, la rationalité, ça ne satisfait plus. Et il y a au besoin, donc, de se trouver des raccourcis vers un monde extrasensoriel, ce qui a toujours été le cas d'ailleurs des spiritualités primitives, hein, avec des drogues, etc., pour entrer dans l'extase, et toutes ces choses-là, être en communication avec l'autre monde. Et ça se développe beaucoup, une sorte de paranormal avec toutes sortes de techniques qui sont expérimentées de façon même, je dirais, pseudo-scientifique. Hein. Et alors là, eh bien, il arrive que vraiment l'instinct, les forces naturelles semblent être sublimées, contrôlées, mises au service du moi, de l'être véritable. Les gens se sentent vraiment s'épanouir dans ces méditations et ces choses, ces approches-là. Et, eh bien, Dieu n'est toujours pas là, ni dans ce monde onirique de technicité, ni dans ce monde de méditation. Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas connu. Et à se remplir de toutes ces choses, justement, eh bien, l'esprit finit par être, on peut dire, occupé et n'a plus de place pour le Dieu véritable qu'il... Lui ne peut pas entrer dans et passer par ce monde-là parce que c'est un Dieu qui se cache, c'est un Dieu discret, c'est un Dieu doux et humble de cœur, hein, dit Jésus, hein, je suis doux et humble de cœur. C'est un Dieu qui ne s'impose pas, mais qui ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Et donc... ces personnes qui sont comme ça prises par toutes ces différentes approches, eh bien, ne connaissent toujours pas Dieu. Et finalement, s'enferment dans leur monde, qui finit même par les couper des autres. Elles deviennent totalement solitaires. Elles fonctionnent pour plusieurs, on peut dire, dans une association de solitude. C'est chacun qui se côtoie, mais qui n'est plus en véritable communion avec les autres. D'où d'ailleurs la nécessité pour plusieurs de retrouver ce qu'on appelle la convivialité, des choses toutes simples, parce que ce monde-là, il n'est pas satisfaisant. Voilà. Et voilà. Ou alors, eux sont dans leur monde, et puis ils restent à côté de personnes qui, eux, donc, sont restés au code et aux conventions de la vie sociale. Et alors, bien sûr, ces deux mondes qui ne se supportent pas. Et voilà, tout le monde finalement se retrouve seul et ne partage pratiquement plus rien d'une véritable spiritualité commune. Je dis tout cela parce qu'il faut retrouver le véritable chemin de la liberté par la connaissance de Dieu, et que cela ne peut se faire que par celui qui a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. » Là, dans cette vérité, cette liberté donnée par le Fils de Dieu, vous serez tout naturellement ce que vous devez être, ce que Dieu vous a destiné à être. Et vous agirez, vous travaillerez pour sa gloire. Ce que vous ferez correspondra naturellement au projet de Dieu pour vous. C'est Dieu qui a le projet pour vous. Donc si vous êtes en communion avec Dieu par son Fils Jésus-Christ, votre raison d'être, ce que vous êtes, eh bien, se manifestera par des œuvres toutes simples que le Seigneur vous accordera. Vous travaillerez à partir de ses dons, de sa connaissance vivante, et vous n'aurez plus de questions à vous poser. Bien sûr, je parle ici pas mal sans des adultes, mais quand même, certains sont encore jeunes. Et puis, on peut penser justement à tous ces jeunes, puis même en étant adulte et parfois très bien avancé en âge, on peut toujours se demander quand même, finalement, qu'est-ce qu'on fait de véritable sur la terre? Pourquoi est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on sert Dieu véritablement? Eh bien, on le servira à partir du moment où on entrera vraiment dans une communion de plus en plus étroite avec lui, dans la connaissance vivante de Jésus-Christ. Là, on pourra être tout naturellement, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous serons remplis de lui, eh bien, nous serons dans les dimensions que lui voudra nous donner, qui seront peut-être toutes simples, des choses toutes simples que le Seigneur nous accordera de faire. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Eh bien, là, nous serons et nous ferons. L'homme qui veut être quelqu'un, on peut dire par lui-même aujourd'hui, eh bien, cet homme-là, il n'a pas d'avenir. Il ne s'attend pas à Dieu pour être. Il ne reconnaît pas être venu de lui et lui être destiné. Et il ne veut qu'exister, on peut dire, je ne sais pas mais comment exprimer ça, mais être l'émanation d'une idée qu'il se fait de lui-même. Tout ça, c'est vanité. Et il peut même, je dirais, refaire le monde en pensée de A à Z. En réalité, il ne fait rien. Il brasse du vent. Tandis que celui qui agit dans la foi, dans l'amour du Seigneur, eh bien, celui-là, vraiment, existe aussi par les œuvres que le Seigneur lui donne d'accomplir. Il fait des choses. C'est Dieu qui les fait en lui, à travers lui, et à la fin, donc, il reconnaît ce que Dieu a fait de sa vie, et il peut le glorifier C'est Dieu, finalement, qui fait toutes choses, et il est dans tout ce qu'il fait. Hein, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alors je voudrais, avec vous ce matin, vraiment faire cette prière à Dieu, demander au Seigneur, continue à nous construire en toi, à nous édifier, hein, pour habiter en nous et au milieu de nous, comme c'est annoncé dans le prophète et dans cette vision de l'Apocalypse, quand Dieu résidera avec les hommes, quand il sera tout en tous. Hein, on peut reprendre la fin donc, du texte. Dans chapitre 21, au sujet de la ville qui est descendue du ciel, hein. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y apporteront leur gloire. Le Seigneur donc sera avec eux au chapitre 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est cela qui est devant nous, cette présence de Dieu, cette présence de Dieu qui aujourd'hui donc nous est promise pour nos cœurs, nos esprits, à l'intérieur de nos corps, et qui, à la fin, est aussi autour de nous, partout autour de nous. C'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu qui est notre habitation, qui est notre lieu de résidence. La gloire de Dieu nous éclairera éternellement, et c'est là que nous devons vraiment trouver notre raison d'être aujourd'hui. Au plus, Dieu est présent en nous, par le Saint-Esprit et par sa parole, hein, au plus nous pourrons savoir que nous sommes son ouvrage et nous agissons et nous agirons pour la révélation de son nom au sein de cette société dans notre temps. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous donne cette conversion du cœur qui lui permet de venir habiter en vous et ensuite de développer vraiment cette présence, sa présence en vous, que vous ayez une totale habitation sanctifiée pour le Seigneur et qu'à ce moment-là, eh bien, tout naturellement, vous soyez ce que lui désire faire de vous, que votre vie donc soit son ouvrage et vous donne vraiment une assurance sur ce que vous êtes et ce que vous devenez en lui. Amen.